Avec ou sans bulle?
Avec bulle.
Et plutôt innovation ou tradition?
Plutôt innovation.
Nous avons défini, sinon étudié, le wine, le vin.
C'est la terre, c'est aussi le soleil.
Des champignons de vinaigre!
Comment arrive-t-on à avoir des bulles dans un vin? C'est une question qu'on se pose tous et on a voulu lever le voile. Plusieurs techniques existent et on a voulu savoir comment et quelles conditions sont nécessaires. Céline et Laurent produisent de A à Z des créments dans le Mâconnais, un savoir-faire atypique pour cette région. Et quel résultat ! On vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans La Voix des Vignes, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, je peux me présenter. Donc, mon nom est Laurent Tripose. Je suis pas vraiment issu, enfin, j'étais pas parti dans l'idée d'être viticulteur. Enfin, j'ai appris un autre métier qui est l'ébénisterie, sachant que mes parents étaient polyculteurs, enfin vignerons, polyculteurs dans un château là sur le village. Et on était trois garçons et ils n'ont jamais souhaité qu'on continue dans le monde agricole. Eux n'ont pas mal bavé en étant, enfin, toute leur vie, je crois. Enfin, c'était pas valorisant d'être paysan, quoi. Donc, ils ont voulu qu'on ait tous, les trois, on a appris un métier différent. Et sur les trois, on est deux à être revenus à la viticulture. Et donc, moi, j'ai commencé, j'ai une autre activité. Ensuite, mon idée a été de faire d'ébénisterie, enfin, j'avais pas trouvé de travail en ébénisterie, plus exactement, enfin, pas des choses qui me convenaient, donc je me suis dit, je vais être plus réactif, faire un petit peu de menuiserie, d'ébénisterie, et puis avoir un petit peu de vigne, parce que dans le coin c'était assez facile d'avoir un petit morceau de vigne, donc j'ai repris des petites parcelles de vigne qui étaient engagées en cave coopérative, donc j'ai fait ça au début. Deux activités avec une petite partie, de vigne, enfin une petite surface de vigne. Et étant à la coopérative, je me suis intéressé au fonctionnement de la coopération et de la coopérative. Rapidement, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à mes envies et à ce que je souhaitais faire. Et puis, en plus, avoir deux activités, c'est très compliqué parce qu'il faut jongler en permanence. Donc, j'ai choisi la viticulture. Et à ce moment-là, je me suis mis à louer des terrains qui étaient disponibles dans le coin, des prairies, en fait, qui avaient été en vigne, qui avaient été arrachées et qui n'avaient pas été replantées. Donc, j'ai loué quelques parcelles et j'ai fait de la pépinière. Sachant que planter coûte très cher, je me suis mis à faire de la pépinière. Donc pendant une quinzaine d'années, j'ai fait de la pépinière et tous les ans, je plantais quelques dizaines d'arbres. Et donc, pour arriver aujourd'hui à 13 hectares de la coopérative, la coopération ne me correspondait pas. Donc j'ai décidé de planter de la vigne, et les vignes que je plantais, je ne les engageais pas en cave coop, je me suis mis à vinifier en cave particulière. Peut-être plus ou moins une réussite au début, mais enfin bon. Et puis je m'intéressais un petit peu à la culture biologique. Donc en coopération, on commence on parlait aujourd'hui de la culture bio en coop, mais ça reste encore très, très limité. Donc moi je voulais avancer plutôt dans ce sens-là, donc c'est pour cela que j'ai plus adhéré, enfin que je me suis désolidarisé. J'ai fait ma première récolte en 1990. En 1996, mon épouse qui travaillait dans une mairie dans la banlieue lyonnaise m'a rejoint sur le domaine parce que le domaine grossissait, il y avait besoin de main-d'œuvre, et puis elle est à Lyon tous les jours, ça faisait des kilomètres, des frais, on a décidé de créer une petite société et de travailler ensemble. Puis on a augmenté encore la surface, donc là aujourd'hui on est quatre personnes, il y a deux permanents, plus nous deux sur le domaine, et puis des saisonniers.
Et vous ne nous avez pas dit où est-ce qu'on est situé, si vous pouvez faire un petit point sur la carte de France, où est-ce qu'on est?
Oui, alors on est à Locher, petit village situé à proximité, enfin oui, tout à côté de Mâcon. Alors les gens qui prennent le train connaissent un petit peu Locher, parce qu'il y a une gare TGV, donc il n'y en a pas tant que ça. Donc extrême sud de la Bourgogne, on est à 5 km du Beaujolais.
Et quel type de sol vous avez ici?
Ici, ben, la roche mer est calcaire. Il y a plus ou moins de sol. Il y a beaucoup, beaucoup d'argile. Voire des limons ou de l'argile. Enfin, et oui, plus ou moins des sols plus ou moins profonds. Nous, on est situé en bas du village. Là, on a plutôt des sols profonds et on fait des bons millésimes. Les années sèches, comme cette année, j'espère. Mais voilà, on préfère les années très sèches.
Et quel cépage vous avez là-dessus?
Donc ça a été un choix aussi, plantant les vignes. Moi, j'ai souhaité avoir les quatre cépages bourguignons. Enfin, il y en a plus peut-être, mais enfin, il y en a plus, c'est sûr, mais les quatre principaux, c'est-à-dire du chardonnay, qui représente quand même chez nous 75% de la production. Et puis, on a un petit peu de pinot noir, un petit peu d'aligoté et un petit peu de gamay.
Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, vous êtes en agriculture biologique et aussi biodynamique, je crois.
Oui, au départ, je me suis intéressé un peu à la culture biologique, mais c'était 92, 93, 94. Et puis, j'ai pas pu concrétiser parce qu'il n'y avait aucun marché pour le vin bio. Oui, il y avait pas de, on ne pouvait pas vendre du vin bio. C'est assez incroyable aujourd'hui, mais il n'y avait pas de demande et aucun. Les gens étaient très méfiants par rapport à la culture biologique. Donc on était revenu à des méthodes beaucoup plus traditionnelles. Et c'est qu'en 99-2000 qu'on s'est réintéressé à la culture bio parce qu'on en parlait un petit peu plus. Il y a des marchés qui se sont ouverts, il y a les étrangers, bizarrement, ce sont les Américains qui se sont intéressés, chez nous, qui se sont intéressés les premiers à la culture biologique. Donc là, en 2000, on a commencé à trouver quelques importateurs intéressés, donc on s'est lancé dans la bio et la biodynamie, parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer des viticulteurs en biodynamie qui étaient plutôt sur l'Alsace et l'Allemagne. Et c'était un genre de vin, enfin l'idée me plaisait, enfin la philosophie, et puis leur vin. Et puis c'est quand même arrivé à faire du vin avec du jus de raisin, quoi. Ça devrait être... c'est évident, enfin, mais il y a peu de gens qui le font. On met plein de trucs dedans, quoi. Donc voilà, c'était l'objectif. Et aujourd'hui, moi je suis content de moi, même si c'est pas toujours bon, parce qu'on arrive à faire du vin qu'avec du jus de raisin.
J'aurais aimé que vous nous expliquiez un petit peu comment on fait du crément, comment on arrive à avoir un vin effervescent dans une bouteille.
Alors le crément est élaboré. Il y a plein de façons en fait de faire de la bulle dans les bouteilles. Il y a déjà en ratant un vin, des fois on arrive à faire de la bulle involontairement, mais
vous ratez pas tous les ans du coup.
Non. on essaye de faire de la bulle, enfin de réussir les bulles. Et donc nous on est parti sur la méthode qu'on appelle traditionnelle ou champenoise. Voilà, donc c'est un vin qui est récolté avec une pleine maturité, avec une légère acidité. Alors nous, on a fait le choix de récolter avec plutôt mûr, donc de faire déjà un vin, ce qu'on appelle un vin de base, donc qui est, on presse, on débourbe statiquement en cuve, et après on met en cuive, on laisse faire la fermentation alcoolique et malolactique en cuve. Et ensuite ce vin est mis en bouteille avec un levain, donc ce levain est réalisé avec des levures et du sucre.
Okay.
Et on incorpore ce levain dans les dans les bouteilles avec le vin. Et on est tenu, pour avoir l'appellation crémant, on est tenu de les garder 9 mois. Ce qu'on appelle sur latte, en fait, il faut que les bouteilles restent au moins 9 mois stockées pour que la fermentation à plat, pour que la fermentation se réalise. Et c'est ce qu'on appelle la prise de mousse. Et ensuite, au bout des 9 mois, ou plus, on peut les garder plus longtemps si on veut, hein, il n'y a pas de limite. Et on les met sur des pupitres ou des gyropalettes de façon à les faire une opération qu'on appelle le remuage, qui permet de faire descendre le dépôt créé par la fermentation dans le goulot de la bouteille. Et donc là, on les tourne pendant une semaine, matin et soir, pour que le dépôt descende. Et au bout de la semaine, enfin plus tard, on fait une opération qu'on appelle le dégorgement. Donc on enlève la capsule de bière qui a servi à boucher la bouteille, et la pression qui est dans la bouteille va éjecter le dépôt. Donc on perd un centilitre, entre un centilitre et un centilitre et demi de vin. Et donc on complète traditionnellement avec ce qu'on appelle une liqueur, qui est souvent à base de sucre et d'arômes divers et variés. C'est ce qui fait la différence, en fait, entre les champagnes et différentes
maisons.
Ouais, c'est cette fameuse liqueur. Donc nous, on a pris l'option de pas mettre de liqueur, mais de compléter avec du vin. On complète avec du vin blanc.
Et donc, pour faire un parallèle, pour des gens qui connaîtraient pas forcément ces méthodes-là, c'est exactement la même méthode qu'un champagne.
Oui.
Mais on l'appelle crémant parce que vous n'êtes pas en champagne.
C'est ça.
Et quand, par exemple, dans le secteur, pour les créments, est-ce que beaucoup de gens font la prise de mousse eux-mêmes, un suivi de ces vins-là, ou généralement, on envoie le vin et quelqu'un d'autre s'occupe de la prise de mousse, parce que j'imagine que c'est forcément un coût, un investissement sur le matériel qui n'est pas forcément simple et un savoir-faire.
Oui, alors beaucoup de viticulteurs font faire la prestation, enfin font travail en prestation et font faire les manipulations et la prise de mousse par des négociants, et récupèrent les bouteilles étiquetées, prêtes à être vendues. Le fait de faire du crément, c'est un investissement en matériel. Le matériel, c'est du matériel champenois, donc ça coûte très cher. Après, il faut de la place, il faut stocker les bouteilles. Et puis, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Il faut manipuler les bouteilles plusieurs fois avant de pouvoir les vendre. Et donc, ça freine pas mal de viticulteurs. Et puis ensuite, c'est absolument pas valorisant de faire du crément. Donc les viticulteurs ne font pas de crément. Les bons viticulteurs ne font pas de crément.
Et pourquoi vous dites que c'est quelque chose de pas valorisant?
Parce que on a toujours, dans le Mâconnais, mais je pense qu'il n'y a pas que le Mâconnais, quand on avait des vins qui étaient un peu foireux ou pas bons, eh bien on les champanisait. On faisait une prise de mousse dessus pour essayer d'arranger le vin ou de camoufler quelque chose. Et ensuite, en mettant la liqueur, en fait, on arrivait à atténuer les mauvais goûts avec la liqueur d'expédition. Donc, c'est resté dans l'esprit de pas mal de producteurs.
Et est-ce que vous avez vu à un moment donné un renouveau, justement, des créments, une qualité qui a augmenté, ou c'est quelque chose d'encore atypique?
Alors, je pense que la qualité, enfin, ça, c'est, le crément est fait de façon de plus en plus sérieuse. Il y a des, voilà. Après, nous, on est sur un créneau bien particulier, parce que le fait, on a aucun ajout de soufre dans nos bulles, et puis pas de liqueur d'expédition. Donc, c'est bien particulier. Je pense qu'il n'y a pas d'autres viticulteurs ou d'autres négociants qui le font. Donc on a une clientèle bien particulière qui aime ça. Et voilà, donc ça nous vaut régulièrement des petits problèmes avec l'Union des producteurs de créments, parce qu'on n'est pas représentatif de l'appellation.
Des fois, quand on goûte des vins effervescents ou des créments, on a des bulles qui vont être plus ou moins grosses ou plus ou moins fines. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à maîtriser, qui est difficile à obtenir, cette bulle, cette finesse de bulle?
Alors, je pense qu'il y a plein de paramètres qui jouent sur la. Mais je pense que c'est quand même essentiellement le temps sur latte. Plus on garde la bouteille longtemps sur latte, plus on aura une bulle fine. Mais après, il y a plein de choses. Je pense que la liqueur qui est employée joue certainement. Il y a. Oui, je sais pas. Après, la quantité, la liqueur, on fait ça avec du sucre. Et la quantité de sucre, en général, sur les créments, on met une vingtaine de grammes de sucre par litre. Mais les champenois mettent souvent 25, 26 grammes. Donc ils ont plus de gaz, plus de pression et plus de bulles. Mais après, les champenois souvent gardent les champagnes très longtemps sur latte. Donc arrivent à avoir une finesse avec cet élevage. Un petit peu comme un vin. Dans un vin qui est élevé longtemps, on va le patiner un petit peu. Puis on voit qu'on a des écarts d'une bouteille à l'autre. On a des écarts qui sont assez importants. On va ouvrir 10 bouteilles, elles ne vont pas avoir exactement le même goût. Et des fois, il y a des écarts assez importants. Vous avez derrière vous des piles de bouteilles, là. On va en ouvrir 2 ou 3. Et déjà, au niveau de la pression, on peut avoir facilement 0,5 à 1 bar de différence de pression d'une bouteille à l'autre. Et pourquoi? Ça a été tiré le même jour, fait de la même façon. Au moment du tirage, on brasse le vin dans la cuve, donc normalement ça doit être homogène. Enfin, mais donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, mais.
Et la pression finale sur un verre effervescent, vous avez une idée à peu près
Oui, ça c'est réglementé. Donc il faut 4 grammes. En fait, il faut 4 grammes de sucre pour faire un bar de pression. Et pour un crémant, il faut, une fois dégorgé, il faut au moins 3 bars et demi. Donc en général, les créments sont à 5-6 bars de pression dans ces eaux-là, quoi.
Et le sucre et les levures que vous rajoutez pour faire fermenter, est-ce que vous avez une sélection particulière du sucre ou des levures, ou ça, c'est pas forcément un facteur que vous prenez en compte?
Si, on a du sucre, ben, faut qu'on utilise, étant bio, et voilà, on utilise du sucre bio. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne trouve pas de sucre bio en France. Il s'en fait un petit peu en Allemagne, mais autrement, souvent, ça vient d'Amérique du Sud. Et puis autrement, les levures, on utilise pareil, des levures autorisées en bio. Voilà, alors moi je pense que on va arriver avec le problème du réchauffement climatique, on va arriver au bout là, soit il faut changer de cépage, soit il faut. Mais on arrive à avoir des maturités, enfin des degrés alcooliques trop importants pour faire de la bulle. Et nous on a régulièrement des créments. Pour un crément, faut être en dessous de 12,5 en degrés alcooliques. Mais nous on arrive très souvent à être au-delà. Donc, je pense que l'avenir, c'est de. On fait une cuvée de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on rajoute du jus de raisin pour la prise de mousse. Plutôt que de mettre du sucre et des levures, on fait un rajout de jus de raisin. Le seul problème, c'est qu'il faut soit congeler le jus de raisin au moment des vendanges, soit faire le tirage à la récolte suivante. Donc, ça oblige à garder le vin de base un an. Avant de faire le tirage. Mais c'est certainement l'avenir parce qu'on rajoute entre 10 et 15% de jus de raisin, donc ça permet de baisser le degré alcoolique. Et puis c'est plus naturel que de rajouter du sucre et des levures.
Et les élevages, vous, est-ce que c'est tout le temps 9 mois ou
Ah non, c'est rarement 9 mois, c'est au moins 12, et voire 24, et puis autrement on fait des élevages, enfin sur des magnums, on fait des tirages de magnums, et là les magnums on les garde, en ce moment on commercialise le 2014, on garde plusieurs années, 5-6 ans sur latte.
Oui, parce que peut-être ce qui est important quand quelqu'un déguste un vin effervescent, c'est pas forcément, enfin il y a l'année où il a été produit qui est important, mais aussi ce que vous venez d'évoquer, la date de dégorgement.
Oui. Le crémant se garde ou le champagne se garde, mais avec la capsule qui est utilisé pour la prise de mousse avec une capsule de bière. Dès qu'il est dégorgé, il faut le boire dans l'année.
Il n'y a plus d'évolution.
Dès qu'il y a la bouteille est bouchée avec un bouchon liège, il y a une perte de gaz de toute façon. Donc si on attend trop, on n'a plus de pression, plus de gaz.
Est-ce que maintenant vous présentez un petit peu la gamme de vins que vous avez sur le domaine ?
Sur le domaine, on a commencé la première production, ça a été le Mâcon Locher, donc un Mâcon village du Chardonnay. Et on a eu pendant 2-3 ans que cette cuvée. Donc c'est très difficile de commercialiser un seul vin, sachant que nous, on s'adressait, le plus facile, c'est de s'adresser aux particuliers quand on n'a pas de client. Donc c'est d'essayer d'appâter le particulier, mais quand vous n'avez qu'un vin à proposer, bon, ça attire pas grand monde. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à faire du crémant, en fait. C'est pour avoir une deuxième cuvée. Et puis ensuite, on a planté différents cépages pour avoir les autres cuvées. Donc on a du Mâcon Locher, Mâcon Vinzel, donc c'est aussi un Mâcon village sur le village d'à côté, du Mâcon Charnay, c'est aussi, voilà. Ensuite, on a du Pouilly Locher. C'est l'appellation communale récoltée sur le village des Lochers, qui est du Chardonnay également. On a du Bourgogne à ligoter. Donc c'est sur les mêmes sols, mais c'est le cépage qui est différent, donc l'appellation est différente. On a du Bourgogne rouge, donc fait à partir de Pinot Noir. Nous faisons du Mâcon rouge avec du Gamay. Et après, nous faisons les trois cuvées de crémant, trois cuvées de bulles, une qui est 100% aligotée, donc qui ne peut pas prétendre à l'appellation crémant, parce que c'est 100% aligotée, et deux cuvées 100% chardonnay.
Et est-ce que vous avez une fourchette de prix à nous donner, des vins sur la gamme, une idée ?
Oui, c'est entre, à la louche, c'est entre 12 et 22 euros.
Et dernière question, est-ce qu'il y a un vigneron que vous aimeriez écouter à votre place ?
Je ne sais pas qui privilégier, parce que, ou qui enquiquiner, parce qu'il y en a plein, oui, des gens qui sont très bons. Enfin, dans notre coin, là, il y a Nicolas Maillet, il y a...
Bah super, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email, toutes les informations sont dans la description. Thank you.